Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche et puis nous sommes dehors sur la terrasse parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait bon. Et puis on est bien à l'air, ça nous change, hein. C'est bien. Et en attendant que nous ayons notre chapelle, ça va venir. On va commencer par lire le psaume 19, versets 1 à 5, s'il vous plaît. 19, 1 à 5. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Ça, c'est un verset que Violette Duval, la femme de Raphaël, disait toujours. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas les paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Amen. Jésus, je te prie que tu bénisses les paroles que je vais donner ce matin et que tu nous renouvelles par ton esprit afin que nous sachions où nous en sommes et que nous sachions dans quelle direction aller. Merci Jésus. Amen. C'est notre Seigneur Jésus qui a créé toutes choses, c'est ce que nous lisons dans la Bible, dans Colossiens chapitre 1 verset 15, il a créé tout pour lui et par sa mort et sa résurrection, il a créé une nouvelle chose, nous. Ça c'est écrit aussi. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit qu'il a fait une nouvelle création. Ceux qui croient en lui sont remplis de son esprit et ça devient une nouvelle création. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une création faisant partie de ce qui était créé au Jardin d'Éden. On est quelque chose de différent. On est même mieux que Adam et Ève, parce que Adam et Ève étaient innocents. Ils ont péché, nous étions dans le péché, et Dieu nous a innocentés, purifiés, lavés, et donc nous avons une valeur encore plus grande que celle de Adam et Ève, de par cette expérience dramatique, soit que nous avons connue dans le péché, puisque cela a ajouté à la gloire de Dieu le fait que nous soyons purifiés par lui et non pas par nos œuvres. Et par sa mort, donc, et sa résurrection, il nous a créés, nous, qui sommes maintenant membres de son Église. Son Église, c'est lui qui l'a créée, et les portes de la mort ne peuvent pas faire quelque chose contre l'Église de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse, sous le quatrième sceau, qu'à la fin des temps, c'est-à-dire la fin du temps des nations, et nous sommes dans le temps de la fin des nations, il n'y a plus de frontières, enfin quand je dis il n'y a plus de frontières, je veux dire on va dans ce sens-là de la mondialisation, eh bien, il nous est dit que le séjour des morts sera lâché, les morts seront lâchés et tueront, massacreront des millions et des millions et des millions de personnes, mais le séjour des morts n'a pas de pouvoir contre les enfants de Dieu. Voilà ce qui est dit. Ça ne veut pas dire que les enfants de Dieu ne meurent jamais, mais quand on meurt, on ne meurt pas vraiment. C'est-à-dire qu'on continue à vivre, on passe de cette dimension à la dimension de Dieu directement, et ça, c'est une bonne chose. Mais il y a plus que ça. Nous avons ça, ces Écritures qui nous enseignent de ces choses, mais on a plus que ça. Dieu parle à nos cœurs, au cœur de ses enfants, pas avec un langage, pas avec des mots, mais la voix du Seigneur parcourt la terre et ceux qui veulent l'entendre, l'entendent. Vous avez des gens, ils n'entendent rien. Je pense que là, ce matin, vous entendez surtout les cigales. C'est les cigales que vous entendez parce que dans le sud, le sud-ouest, on a les cigales. C'est merveilleux. Nous, on s'y habituait. Au début, c'était un peu dérangeant. Non, ce que nous pouvons... Tiens, ce sont tu, elles sont polies, hein. Ce que nous cherchons à entendre, c'est la voix de Dieu. À reconnaître la voix de Dieu dans la nature, dans, comme il nous dit là, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. En ce moment, le monde est dans une très mauvaise position, et je ne veux pas dramatiser tout ça, on en entend parler partout, on sait. Et la seule raison, c'est que le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré leur sagesse à eux, à la sagesse divine, à la sagesse de Dieu. Et leur échec, en fait, leur servent de tremplin pour se lier encore davantage. On pourrait dire, tiens, ils vont prendre une bonne leçon, ils vont améliorer les choses. Non, ça, c'est, pour eux, ça sert de leur échec de tremplin pour se lier encore davantage, pour que ça devienne encore pire. C'est infernal, c'est incroyable. Tout ça parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Et beaucoup de croyants même ne lisent plus la Bible et ne lisent plus ce que les jours instruisent à leur jour, c'est-à-dire l'histoire. L'histoire. En lisant l'histoire, nous apprenons beaucoup de choses et nous pouvons tirer des leçons, mais eux, on dirait qu'ils lisent l'histoire à l'envers. Leur système ne marche pas, eh bien, il faut renforcer le système, plutôt que de dire, bon, on va changer. Non, on le renforce encore plus fort. Le monde, mes frères et sœurs, est enfin prêt à accueillir ce que la Bible appelle l'Antichrist. Ils se sont tellement habitués à l'erreur et au mensonge qu'ils ne discerneront pas que l'homme providentiel, l'homme qui va arriver et mettre de l'ordre dans tout ça, ils ne vont pas discerner que c'est l'Antichrist. Ils vont penser que c'est Dieu, ils vont penser que c'est Jésus ou je ne sais pas quoi, mais ils ne vont pas penser que c'est l'Antichrist parce qu'ils ne sont pas instruits ni par la Bible ni par l'histoire. Parce qu'il y a déjà eu des Antichrists. Et ils agissent toujours de la même manière. Dans la communauté, qui est l'Église de Jésus-Christ selon les actes des apôtres, c'est-à-dire selon Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4, dans la communauté, on ne vit pas une utopie. Nous vivons la parole de Dieu. Et le monde croit que nous vivons une utopie. Et que nous prions une espèce de... un ami imaginaire. Nous n'avons pas un ami imaginaire. Où est l'utopie? Leur monde, leur religion, leur politique, ça c'est l'utopie, qui est en tout point bien déréglée. Et quand le monde bascule, comme il a basculé là, dès le début de cette année, quand ils voient que leur système échoue, eh bien ils accélèrent, ils foncent dans le mur encore plus vite. On le voit, on les entend. On voit leur prise de position. C'est leur monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Heureusement. Mes frères et sœurs, nous nous inspirons de l'histoire, de celle de Adam, d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, de Job, des prophètes, de Jésus, des apôtres, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui nous ont, de foi, qui nous ont précédés. Les gens du monde nous trouvent stupides de lire ces vieilles histoires, ils ne comprennent pas pourquoi on lit tout le temps la Bible. Moi, ça fait depuis 1968 que je la lis tous les jours, ils ne comprennent pas comment c'est possible qu'on lise un bouquin tous les jours depuis tant d'années. C'est pas moderne, c'est un vieux truc. Eh bien, nous, nous en tirons des leçons pour la vie présente. Nous n'avons pas oublié nos émotions du début, quand nous avons découvert cette Bible, quand nous avons découvert l'Esprit de Jésus, quand nous avons découvert la beauté de son Église, nous n'avons pas oublié nos émotions, nous n'avons pas oublié nos vieux chants, même si nous en avons des nouveaux, nous n'avons pas oublié nos vieux psaumes qui sont écrits dans la Bible, ou ces vieilles poésies qui sont pleines de charme et pleines de leçons. Parce que ces vieux cantiques, ils voulaient dire quelque chose, c'était pas simplement « J'ai la joie, alléluia, j'ai la paix, amen, 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 alléluia, ou, ya, 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 ya. » Bonne année, néné, néné. Non, ils avaient des... Nous n'avons pas oublié ces vieux chants. Nous n'avons pas perdu la ferveur qui animait les hommes et les femmes de foi, d'autrefois. Et nous n'avons pas oublié non plus les châtiments de Dieu qui ont jalonné toute l'histoire des gens de la Bible et de l'Église et l'histoire de ce monde aussi. Mes frères et sœurs, en vivant la parole écrite, on ne se tient pas en équilibre sur du vide. Jésus dit, on n'a pas construit notre maison sur du sable, mais sur du roc. Nous n'avons pas oublié que les premières communautés chrétiennes, parce qu'il n'y a pas eu une communauté chrétienne à Jérusalem, après il y en a eu dans tout le monde chrétien. Si vous lisez les Écritures, vous allez vous apercevoir qu'ils vivaient en communauté dans les maisons. Eh bien, les premiers, nous n'avons pas oublié que ces premières communautés chrétiennes étaient constituées d'amitié fraternelle et d'affection fraternelle. Ce n'était pas simplement des lieux de rencontre où on se connaît à peine. Non, nous n'avons pas oublié que les premières communautés chrétiennes se sont constituées comme des boucliers protecteurs pour les faibles, pour les personnes âgées, pour les malades, pour les pauvres. On n'a pas oublié. Mais frères et sœurs, toutes les sociétés obéissent aux mêmes lois si elles veulent réussir. Mais quand elles n'obéissent plus à ces bonnes lois, eh bien, elles se détruisent toutes seules. Dès le premier siècle de l'histoire de l'Église, il y a eu des chrétiens qui ont oublié leur premier amour. C'est ça la base. Quand on oublie de vivre ce qui est notre raison d'être, on se démolit de nos propres mains. Il ne faut jamais oublier l'idée divine qui a fait naître notre communauté, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que cette idée divine ne soit plus qu'une doctrine sèche, qui sèche nos cœurs et qui ne donne pas envie aux gens de venir vivre cette vie magnifique que nous vivons et qu'ils imaginent que c'est dur. Non, c'est pas dur. Ceux qui, depuis 1977, ont embrassé l'idée de Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, et qui l'ont oublié, ils ont oublié leur intérêt à être vigilants pour leur propre survie. Il faut qu'on se souvienne du péché de Sodome et de Gomorre. On va le lire dans Ézéchiel chapitre 16, verset 49. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore. Voici, c'est la Bible qui dit. C'est pas le monde dit que c'est autre chose, mais la Bible dit, voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles, elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Ils sont devenus arrogants et ils ont commis des actes abominables devant moi. Voilà le péché de Sodome. L'insouciance. Alors, mes frères et sœurs, la paix, c'est toujours une conquête sur l'insouciance. Il faut faire la paix. Il faut construire la paix parce que c'est une conquête sur l'insouciance. Ne pas se soucier des autres, ça mène à la catastrophe. Vous vivez au jour le jour parce que Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Bien sûr, nous avons des projets, mais nous vivons au jour le jour. On ne sait pas de quoi sera fait demain et on ne va pas chercher ça dans les astres ou dans je ne sais quoi. On vit par la foi en Jésus-Christ, mais pour certains, se vivre tous les jours, au jour le jour, c'est devenu une routine, et ils ont perdu la guerre contre l'insouciance. Et un esprit d'insouciance a rempli leur cœur. Ils ne se soucient pas de ce qui se passe et de ce qu'ils pourraient faire pour que les choses soient plus jolies, soient meilleures, pour que les gens soient nourris, pour que les gens soient soignés, pour que les gens... Nous ne voulons pas tomber dans une confortable routine communautaire qui nous ferait oublier le pourquoi nous vivons ce que nous vivons. Nous ne voulons pas. Il nous faut savoir que notre Dieu est illimité en sagesse. Mais il nous faut aussi savoir que le meilleur des chrétiens a ses limites. Mais ces limites que nous avons, elles nous sont imposées par Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Dieu est le gardien des bornes de notre communauté. Géographique et spirituelle. Et morale. Le monde a rejeté les bornes de Dieu. Et il est où le monde aujourd'hui? Et où il va aujourd'hui? Et où sera-t-il bientôt? Alors nous savons que Dieu ne change pas. C'est rassurant d'avoir affaire à quelqu'un qui ne change pas, sur qui on peut vraiment compter parce qu'il ne change pas. Alors, mais pourquoi est-ce que nous changerions? Si nous avons quelque chose à changer, c'est pour ressembler de plus en plus à celui qui nous a tant aimé. C'est, on ne va pas changer en mal, mais on va changer en bien, on va s'améliorer. Et les bornes que Dieu nous a données sont des fermetures, mais aussi des ouvertures. Nous savons, parce que jour après jour, nous écoutons le langage divin qui n'a pas de parole dans la nature, dans l'histoire, ce que nous observons, et nous entendons dans la communion avec Dieu ce que le Seigneur nous dit, et nous savons que nous resterons fidèles à notre vocation, bien que nous avons le droit d'entrer et de sortir. Jésus dit, je suis la porte, et celui qui entre et qui sort, il trouve toujours des verts pâturages. La seule condition qui nous autorise à franchir les bornes pour sortir dans ce monde, pour sortir de la communauté momentanément, eh bien, c'est pour aller dans le monde et pour être des témoins de ce que Jésus est dans l'Église et de ce que Jésus fait de nos jours dans l'Église et aussi dans ce pauvre monde. Il faut que nous soyons des témoins. Et ça, par amour. Ne dites pas « je suis timide ». Si vous avez de l'amour, la timidité, ça s'efface. Nous avons passé, il y a quelques semaines, par un confinement presque mondial, et le danger rôdait partout, nous disait-on. Et nous, depuis qu'on est en Jésus-Christ, on est confiné dans l'Église de Jésus-Christ. Même géographiquement, nous sommes sur notre territoire avec des bornes que Dieu a placées et nous ne dépassons pas ces bornes car nous connaissons nos droits divins, nous connaissons nos devoirs divins envers Dieu, envers l'Église, envers le monde, envers nos familles, envers la nature. Le monde ne connaît plus ses bornes. Il n'a plus de bornes, il n'a plus de frontières. Le diable n'est pas sédentarisé, il voyage partout. Il rentre aussi dans les églises. Je me rappelle toujours Raphaël, le gitan, qui m'a emmené à Dieu, il disait « Pendant que vous êtes en train de m'écouter, pendant que je vous parle, il y a le diable qui passe dans les rangs et qui vous dit « N'écoute pas ce fou, c'est un fanatique religieux, ne l'écoute pas ». Le diable se glisse dans les réunions, le diable se glisse dans les églises, le diable se glisse même dans notre communauté pour essayer de nous endormir, pour qu'on oublie qu'il y a des bornes que Dieu a fixées, que nous ne devons pas franchir. Alors Dieu nous a mis à part dans sa famille, son église, excusez-moi du terme, il nous a mis à part de quoi? Il nous a mis à part des empestés. Excusez-moi du terme. Mais ce sont des gens qui sont infestés par des démons. Il nous a mis à part de ça. Ces gens, les démons ne peuvent rien faire sans être incarnés. Ils ne peuvent pas agir s'ils ne sont pas dans un être humain. Même une fois, quand Jésus a voulu chasser les démons lui ont dit « Permets-nous d'aller dans les porcs qui sont là !» Et Jésus les a envoyés dans les porcs. Mais les porcs sont plus exigeants que les êtres humains, ils ont préféré se flinguer plutôt que de vivre avec des démons en eux. Et ces gens véhiculent des diableries, parce qu'ils sont remplis de démons. Je vous rappelle, on était à Oussy avec Camélia, on traversait la route pour aller, on revenait de Lausanne, on traversait la route pour aller au camping, là où elle avait sa caravane avec Raphaël. Puis j'ai dit, mais c'est incroyable, Camilla, j'ai l'impression que tout le monde est possédé. Elle a éclaté de rire au milieu de la route, puis elle me dit, ah bon, c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. Les gens sont infestés, et Dieu nous a mis à part des infestés, des empestés, de ceux qui ont la peste, une peste démoniaque. Est-ce que c'est dur d'être mis à part pour Dieu, par Dieu? Non, quand on sait pourquoi, c'est pas dur. Il y a des contraintes, mais ça n'est pas dur. Ce qui est dur, c'est la vie dans ce monde. C'est par amour pour nous que Dieu nous a mis à part dans la communauté. Et notre devoir, c'est de neutraliser, c'est d'abriter le pourtour de notre communauté, parce que nous voulons être sous la protection de notre Père Céleste. Alors le monde est en train de s'effondrer, c'est un effondrement mental incompréhensible. Ils ne veulent pas de la lumière, ils persévèrent là-dedans, ils accélèrent dans cette idée-là. Ils ne veulent pas écouter les paroles qui instruisent nos jours et nos nuits, comme dit la Bible que nous venons de lire tout à l'heure. Satan n'a pas d'autre corps que le corps des gens qui ne veulent pas de la lumière. Et il fait des ravages dans ce monde au travers de ceux qui sont possédés par son esprit et par des esprits de démons qui mentent, qui dérobent, qui détruisent, qui tuent. Il y a deux mondes. Hier soir, on a regardé un film, c'était très, très intéressant, où on voyait deux mondes qui étaient parallèles dans le même endroit. C'était de la science-fiction, mais ça m'a conforté dans mon idée. Mais nous, c'est pas de la science-fiction. On est dans ce monde, mais il y a deux mondes. Il y a un monde matériel et il y a un monde spirituel que vous verrez jamais, vous verrez pas. De temps en temps, on peut entrevoir un ange ou un démon, mais c'est très rare. Nous sommes à part, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes l'Église, nous sommes dans la forteresse de Dieu, et il y a des bornes, certes, il y a des bornes, mais nous aimons ces bornes. Comme le psalmiste n'a pas dit « j'aime les bornes », il a dit « j'aime ton bâton ». Ton bâton et ta houlette me rassurent. Raphaël disait, ton bâton et ta roulette me rassurent. Le bâton, c'est pour taper les brebis qui sortent un peu du troupeau. Et la houlette, c'est, vous savez, avec une crosse comme ça, avec un truc un peu... Je ne sais pas comment expliquer. Pour attraper les moutons par les pattes. Les bornes, elles nous rassurent. C'est bien, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Il y a des choses qu'on doit faire. C'est les bornes que Dieu a posées. Et nous aimons ces bornes et nous refusons de vivre sans ces bornes, comme ce pauvre monde qui s'auto-détruit. Il y a un homme politique, un Anglais, ça fait Churchill, je pense que vous connaissez quand même, et qui disait « Quiconque ignore le passé est condamné à le revivre ». Toute l'histoire de l'humanité se résume là. C'est une course effrénée entre les démons, les vies invisibles, et l'homme. Alors, les démons sont insatiables, ils sont dissimulateurs, ils ont une expérience plus que millénaire, et nous, les hommes, on est fragiles, et on se trompe de combat, et on ne veut pas étudier, on ne veut pas entrer dans la lumière, on ne veut pas connaître l'histoire pour en tirer des leçons, mais on est des abrutis ou quoi ? Notre président actuel, Emmanuel Macron, a dit « C'est une guerre, oui, mais c'est une guerre spirituelle, mes frères et sœurs. Esprit contre matière. Deux sortes de vie qui s'affrontent. L'idée d'un monde où tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, sans bornes, sans frontières, quand il veut, où il veut, c'est une aberration mentale. C'est une aberration mentale. Nous voulons être à l'abri de ce monde. Nous voulons habiter dans la maison de Dieu tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Nous aimons les bornes, les bonnes lois de Dieu. Et l'histoire de ceux qui nous ont précédés aussi. Afin de ne pas connaître les mêmes erreurs qu'eux, mais aussi afin de faire les mêmes choses que certains. Je pense à des hommes comme Joseph Smith, William Branham, T.L. Osborne, Raphaël Duval, Clément Le Cossec et combien d'autres, Watchman Nee et combien d'autres, Catherine Kuhlman et combien d'autres encore, des gens qui ont fait quelque chose dans l'œuvre de Dieu. eh bien, nous voulons nous inspirer de cette histoire. Même si c'est une histoire qui a 50 ou 60 ans ou 100 ans. Wigglesworth, combien il y a des... Il faut lire les histoires, c'est important. Ah, mais moi, je lis que la Bible. Ben, si ça, c'était moins vrai que tu lis que la Bible. Mais il y en a qui lisent même pas la Bible et qui ne veulent pas lire les biographies, les histoires de ces hommes et de ces femmes de Dieu. C'est important. Et lire aussi l'histoire de ce monde, savoir pourquoi et comment les choses se sont produites, pourquoi elles sont arrivées. Et vous allez voir qu'il y a des analogies, les choses se répètent. Parce que le monde ne tire aucune leçon de son passé. Et nous, nous tirons des leçons de notre passé. Et nous allons de l'avant grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien compris ce que vous avez à faire maintenant. Il faut que vous vous instruisiez. La Bible dit, un jour, on instruit un autre. Instruisez-vous de ce que vous avez vécu hier pour ne pas revivre les mauvaises choses que vous avez vécues hier, mais vivre les bonnes choses que vous avez vécues hier et avant-hier et dans les siècles passés. Les nuits instruisent d'autres nuits. Nous avons à apprendre continuellement. À l'école, on apprend A, B, C, D, E, F, G, H. Après, 1 plus 1, 2 fois 2, 4 divisé par 2. Mais ces choses-là sont plus importantes. Bien sûr que c'est important de savoir lire et de savoir écrire, mais c'est important de connaître l'histoire afin de pouvoir en tirer des leçons, et surtout l'histoire biblique d'hommes et de femmes de foi, mais d'hommes et de femmes qui ont manqué de foi aussi. Il faut apprendre, il faut apprendre. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour ces quelques paroles. Veuillez les graver dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci Jésus. Amen. Au revoir.